Blanche Streb, bonjour, bienvenue sur Radio Maria.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, vous êtes auteur de deux ouvrages, Bébé sur mesure, Le monde des meilleurs, qui est paru en avril 2018 aux éditions Arthège, également un livre témoignage Éclat de vie, paru aux éditions de l'Emmanuel en octobre 2019. Et plus récemment, vous avez coécrit un ouvrage intitulé Et maintenant, sept vertus pour traverser la crise aux éditions de l'Emmanuel. Nous allons écouter dans quelques instants votre témoignage, mais auparavant, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs?
Oui, merci. Oh ben pour me présenter, j'ai 43 ans. Je suis pharmacien de formation. Je suis mariée, j'ai deux enfants. Et j'écris, comme vous l'avez dit, et je travaille pour l'association Alliance Vita, qui s'occupe de sujets de bioéthique. Et sinon, j'assure aussi des chroniques et des éditos dans différents médias, en particulier des médias chrétiens.
Alors, nous écoutons votre témoignage.
Oui, alors effectivement, cette émission, elle vient en écho à un colloque qui était prévu à Montmartre avec Mère de Miséricorde et qui n'a pas pu avoir lieu évidemment à cause du Covid. Et ce colloque s'intitulait Tu as du prix à mes yeux. Et j'avais été invitée à témoigner à ce colloque, donc voilà, je le fais ce matin sur votre antenne. Et pourquoi on m'a demandé de témoigner? Parce que effectivement, j'ai un parcours personnel que je raconte dans Éclat de vie que vous avez mentionné, qui m'a amenée à un profond changement de regard sur la vie, en particulier sur la vie naissante. Voilà, pour donner quelques clés de compréhension pour nos auditeurs. J'ai subi une erreur médicale à la suite de mon premier accouchement, ce qui m'a plongée petit à petit dans une épreuve assez grande, puisque j'ai dû subir pas mal d'opérations et puis surtout j'ai dû accepter de vivre avec cet effondrement, de me dire que peut-être que je n'aurais plus d'enfants alors que je venais juste de découvrir la joie d'être maman. Je me faisais en même temps voler ma fertilité, donc ça a été quelque chose d'assez difficile à vivre. Et puis, les péripéties nous ont amené à ce que je puisse naturellement retomber enceinte, mais malheureusement, nous avons perdu notre bébé et nous avons traversé le deuil périnatal, voilà, ce deuil si particulier. Et puis, ensuite, un peu de temps après, je suis à nouveau retombée miraculeusement enceinte. Et donc là, nous avons traversé une grossesse des plus difficiles et des plus anxiogènes, voilà, avec des moments d'angoisse absolue où j'étais en accouchement prématuré en permanence, avec voilà, la perspective permanente de perdre notre enfant, qui finalement, miraculeusement, a pu naître, alors prématuré, extrême malgré tout, mais en tout cas. Il a survécu. Aujourd'hui, il approche de ses 10 ans. Il va très bien. C'est un petit garçon merveilleux. Donc, gloire à Dieu au quotidien. Et c'est vrai que tout cet événement, où finalement nous avons vu l'immense fragilité de la grande prématurité, ce que traversent 60 000 familles par an, ce qui est quand même pas toujours aussi prématuré que le mien. Hein, mais en tout cas, voilà, c'est des événements que traversent pas mal de familles. Et c'est profondément bouleversant que d'avoir son tout petit sous ses yeux qui essaye péniblement de terminer sa grossesse. Moi, le mien, il était prématuré extrême, c'est-à-dire qu'il n'a jamais commencé le troisième trimestre de grossesse. Il est né à 5 mois et 3 semaines, il ne faisait pas 1 kilo. Et au final, c'est un peu voilà, comme si on avait sous les yeux l'enfant qui était censé être encore au chaud, à l'abri, au sein du corps maternel. Eh bien, on l'avait sous nos yeux, dans ses immenses fragilités, dans ses immenses détresses respiratoires, alimentaires, etc. Et de voir en fait les incroyables interactions qu'on a partagées avec lui, des vrais, des profonds échanges, alors sans mots bien sûr, mais juste par quelques regards et par le toucher, et par ce que je crois nous n'arriverons jamais à expliquer, parce que c'est de l'ordre de l'invisible, probablement de la communion des saints. Voilà, de voir ces forces de vie chez ces tout petits, c'est profondément bouleversant. ça met à la fois, bien sûr, dans l'angoisse, mais aussi dans une, a posteriori, surtout quand tout va bien, dans une immense gratitude, dans un immense émerveillement, en fait, sur ce qu'est la vie naissante, sur ce qu'est cette, voilà, cette incroyable étape de la vie qui est la grossesse, la maternité, et dans tous ces, voilà, dans tous ces phénomènes qui se passent pour mettre au monde, finalement, une nouvelle petite personne, toujours, toujours unique. Voilà, donc les éditions de l'Emmanuel m'ont demandé de partager ce témoignage dans un livre, Éclat de vie. Quand ils m'ont demandé, parce qu'ils connaissaient un petit peu mon histoire, et quand ils m'ont demandé de ce livre, j'étais déjà engagée dans un essai, dans autre chose. Donc je leur ai dit oui de tout mon cœur, un grand oui, mais pas tout de suite. Donc si bien qu'entre ce oui que j'ai posé et finalement le moment où j'ai commencé à écrire, il s'est passé un an et demi. Et donc j'ai porté, avant de me lancer dans l'écriture, j'ai porté ce livre puisque j'avais donné un oui, je l'ai porté dans mon cœur, je l'ai porté dans mon cerveau, je l'ai médité en fait, je l'ai vraiment beaucoup beaucoup médité. Et puis quand le temps a pu exister et puis surtout l'étincelle finalement pour écrire a pu enfin exister aussi, je me suis lancée dans cette écriture et j'ai vraiment écrit ce livre dans un cri du cœur. Et comme j'ai médité pendant longtemps, je me suis vraiment demandé quoi dire, qu'est-ce qui peut être utile pour le lecteur, qu'est-ce qui peut le rejoindre. Il ne s'agissait pas de raconter mon histoire pour raconter mon histoire avec moult détails, voilà, ce qui serait très très pénible évidemment pour le lecteur. Non, c'est vraiment comment rejoindre le lecteur en partageant ce que j'ai vécu, qui est toujours unique et personnel, mais qui finalement résonne quand même avec des choses qui sont de l'ordre de notre commune humanité, parce que il n'y a pas de vie sans difficulté, il n'y a pas de vie sans épreuve, il n'y a pas de vie sans deuil, il n'y a pas de vie aussi sans relèvement, et surtout, il n'y a personne qui n'ait pas en soi des forces de vie. Et j'ai voulu vraiment partager voilà, cette espérance, ce consentement, ce relèvement, ce qui m'a habité, ce qui m'a été donné finalement de comprendre au travers des difficultés, mais aussi des joies, ce que moi j'ai vu, ce que moi j'ai compris, et ce que j'avais du coup à partager. Parce que je crois que nos histoires sont toujours singulières, mais on est tous un prisme ou une petite facette de l'histoire humaine qu'il est bon de se partager les uns aux autres. Je crois vraiment que les témoignages des uns et des autres nous font grandir. Moi, en tout cas, j'ai souvent été beaucoup, beaucoup nourrie par des témoignages d'épreuves, mais aussi de saints, enfin voilà, des histoires singulières et particulières qui ont toujours quelque chose à nous dire. Et ce livre est aussi un témoignage de foi. C'est vrai que c'est mon témoignage, mais d'abord je crois que c'est un livre qui rend témoignage à celui qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui a toujours été incroyablement présent dans notre histoire. On a été vraiment gâtés, si bien que j'ai aussi pu poser par écrit cette immense gratitude que j'ai d'avoir été toujours soutenue par des frères, par la prière des autres, etc., mais par Dieu aussi lui-même et par des signes extrêmement concrets, si concrets que c'en est parfois drôle, que nous avons pu recevoir au cours de tout ce parcours. Alors, qu'est-ce que j'ai compris? J'ai beaucoup appris sur la douleur de l'infertilité qui aujourd'hui touche tellement de personnes. Enfin, moi, j'ai la chance infinie d'avoir deux enfants, mais j'ai quand même approché cette inquiétude, cette angoisse, cette douleur, ce renoncement, d'une certaine manière. Et ça me permet peut-être de comprendre un peu, même s'il n'y a jamais deux histoires pareilles, mais en tout cas de comprendre la souffrance de notre époque. Ça a toujours existé, mais c'est vraiment beaucoup plus présent aujourd'hui, on le sait. Voilà, lié à cette incapacité de donner la vie, alors que notre cœur, notre corps, toute notre vie y est disposée et qu'on est dans cette attente, une attente qui n'est pas comblée. J'ai compris aussi que un couple, ça pouvait beaucoup souffrir, ça pouvait être beaucoup chahuté, et que le mariage est quelque chose de à la fois extrêmement puissant par le sacrement et d'extrêmement fragile aussi à cause des épreuves qui viennent nous tarauder, nous abîmer, voilà, comme la mer parfois qui érode un peu, et à quel point, en particulier dans tout ce qui touche à la vie naissante, à la maternité, à quel point l'homme et la femme sont différents et vivent les choses différemment. Et je crois que ça, c'est quelque chose, voilà, dans un monde qui voudrait unifier l'homme et la femme, faire comme si nous étions tous pareils, eh bien, ça n'est pas vrai. Je crois profondément que nous vivons les choses de manière différente. Et j'ai compris que, finalement, plutôt que de se le reprocher, de ne pas toujours se comprendre, eh bien, ça avait quelque chose qui était quand même aussi de l'ordre de la force, qu'on pouvait se donner l'un à l'autre. La femme, parce qu'elle vit ça dans son corps, vit ça de manière pratiquement permanente. En tout cas, moi, quand j'avais tout ça à vivre, c'était impossible d'oublier. J'étais pratiquement... j'étais habitée, en fait. Habitée en permanence par tout ça. Ce que, évidemment, l'homme n'est pas appelé à vivre, puisque ne vivant pas ça dans son corps, il a peut-être plus de facilité à ne pas être aussi habité par tous ces sujets, ce qui lui permet d'une certaine manière parfois d'être plus dans la vie, plus dans le reste, dans tout ce qui existe autour. Et ça, je pense que, au lieu de se le reprocher, enfin moi j'ai pu le reprocher parfois à mon mari de rien comprendre, eh bien j'ai compris que finalement bah, c'était peut-être une chance, voilà, de pouvoir être parfois sorti, tiré ailleurs, tiré autrement vers voilà, tout ce qui reste finalement du domaine de, voilà, de la vie et de ce qui va bien malgré tout, parce que voilà, on peut avoir tendance parfois à se sentir résumé à ses problèmes, et finalement de pouvoir enlever un peu ses œillères, eh bien c'est ressourçant et c'est surtout nécessaire. Et puis ensuite j'ai compris voilà, cet immense déchirement que vivent aussi tant de couples autour du deuil périnatal, ce deuil si particulier qui est au fond le deuil d'un futur, qui est le deuil de quelqu'un qui a vraiment existé dans le cœur de ses parents et vraiment existé dans le corps de la maman et qui pourtant ne partage aucun souvenir avec qui que ce soit. Si bien que c'est un deuil finalement qui est parfois difficile à comprendre pour l'entourage, mais qui n'en reste pas moins un vrai deuil, quel que soit d'ailleurs le stade de la grossesse. Bien sûr, il n'y a jamais deux femmes et deux couples qui vivent les choses de la même manière. Pour certains, c'est un profond effondrement, pour d'autres, c'est moins grave. En tout cas, ça n'est jamais rien, je crois. Et je crois que c'est un deuil... qu'il faut prendre en considération quand ça arrive à des proches autour de nous. Et je crois que c'est un deuil qui nécessite, comme tous les deuils, un vrai temps des larmes pour pouvoir accueillir, traverser et puis ensuite eh bien, rebondir, tout en sachant qu'on n'oublie jamais. Une mère jamais n'oublie son enfant. Et voilà, et je crois que eh bien, savoir ça aussi, qu'on va avoir dans son cœur toute sa vie la pensée pour cet enfant qui n'aura pas existé en dehors de ces quelques semaines ou mois dans notre corps, eh bien, on ne l'oublie pas. Mais on peut d'abord vivre malgré ce deuil et puis ensuite vivre avec ce deuil. Et puis vivre tout court aussi, parce que encore une fois, on a des forces de vie qui nous permettent quand le temps est venu, et avec des hauts et des bas, et un pas en avant et un pas en arrière, de nous relever et de nous laisser toujours rattraper par la vie qui est la plus forte. Et puis peut-être, je peux partager aussi que voilà, tout ce que j'ai eu à vivre dans ma troisième grossesse, extrêmement anxiogène, puisque nous savions là que nous avions pratiquement toutes les chances de perdre cet enfant comme nous avions perdu le deuxième. Eh bien, j'ai eu finalement, dès la découverte de la grossesse, c'est-à-dire très très tôt, eu à protéger cet enfant, à m'aliter, à transformer toute ma vie pour protéger cet enfant qui n'était même pas plus gros au début que le point positif du test de grossesse que j'avais fait. Et au fond, de prendre cette conscience que la vie est extrêmement fragile et que finalement, on ne voit pas, c'est vraiment dans le secret finalement du corps, puisque au tout début, on ne voit même pas, y a même pas le ventre qui grossit, il n'y a rien, on ne voit rien. Mais le petit être, il est déjà là et il est déjà en train de se battre pour sa vie. Chez moi, c'était extrêmement criant, puisque j'ai un utérus totalement foutu, flingué, et que malgré tout, eh bien, un enfant avait réussi d'abord à être conçu, ce qui était déjà miraculeux, et ensuite à s'implanter, ce qui était totalement miraculeux, parce qu'il a dû trouver le seul endroit à peu près potable dans ce que j'appelle mon bidonville. Et finalement, les forces de vie que lui a déployées ont été si incroyables qu'il a réussi à faire malgré tout son chemin. Et ça, c'est quelque chose qui m'a... Bien sûr, je vivais ça dans une angoisse absolue, donc c'est beaucoup plus facile a posteriori quand il est là le matin au petit déjeuner avec moi, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est une mutation du regard que tout ça m'a offert, a posteriori, encore une fois. Et c'est vraiment le psaume 138, hein, c'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnant sont tes œuvres, toute mon âme le sait. J'aime beaucoup vraiment ce psaume qui continue comme ça. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevé. Tu me voyais sur ton livre. Tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit. Et vraiment, ça me parle du coup énormément. Voilà, grâce à la vie de mon enfant. Et ce qui est un souvenir assez fort pour moi, c'est que j'étais enceinte de seulement un mois et demi, voilà, mais j'étais déjà alitée, on avait été contraints de déménager, enfin toute notre vie était bouleversée alors que lui était encore, voilà, même pas de 1 centimètre. Le pape Benoît XVI a lancé les premières veillées pour la vie naissante. C'était du coup la veille de l'entrée en avant 2010. Voilà, il a instauré ça dans le monde entier. Et voilà, et moi, à cette période-là, bah, je vivais très concrètement ces mystères-là. Et donc, j'ai vraiment un souvenir de cet événement assez fort et d'avoir lu les textes du pape et vraiment d'avoir été accompagnée dans cette incroyable prise de conscience que je portais la vie, une vie très fragile, mais que c'était déjà une vie, que c'était déjà même une vie éternelle. Puisque avoir médité sur la mort de mon deuxième enfant, avec cette espérance hein, que cet enfant nous attend au ciel, que cet enfant est vivant en Dieu, et bien que toute nouvelle vie est une nouvelle vie éternelle. Voilà ce que je peux partager peut-être d'un petit peu personnel. Et puis, pour être quand même dans le thème qui nous est demandé, tu as dû prier à mes yeux peut-être pour partager. Deux, trois réflexions peut-être un petit peu moins personnelles ou intimes, un petit peu plus, on va dire, théoriques. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais voilà, autour de cette méditation de la vie naissante ben voilà, que vous m'avez invité à partager ce matin avec vous. Je dirais d'abord que pour parler de l'embryon humain, le premier point que je voudrais partager, c'est que tous, nous partageons un même point de départ dans notre vie, un même starting block, j'aime bien le dire, c'est la conception, c'est la fécondation. Toute nouvelle vie, hein, elle commence par là, il n'y a pas d'autre point de l'espace et du temps qui ne démarre une nouvelle vie humaine que ce moment de la fécondation. C'est évidemment une donnée qui est logique, c'est aussi une donnée qui est scientifique, et évidemment, si vous et moi... chacun, nous remontons tout le fil de notre vie, nous allons tous arriver à ce même point. Nous avons tous commencé par là, si bien que cet embryon qui n'a pas de visage, qui n'a pas de voix, il est quand même notre semblable dans l'espace, dans le temps. Il est celui finalement que nous avons tous été. Et c'est en cela finalement qu'il est notre semblable au futur. Voilà, je voudrais partager aussi que finalement, dans cette première cellule hein, que nous avons tous été, eh bien, toute la puissance de l'être humain y est inscrite. Je ne dis pas que c'est un être humain en puissance, je dis volontairement que toute la puissance de l'être humain est inscrite dès cette première cellule. Et voilà, et peut-être de repenser aussi le fait que la matière toute seule, elle ne vit pas. En fait, la vie, elle ne vient pas de la matière. C'est la vie qui anime la matière, c'est la vie qui anime cette première cellule, puis toutes les suivantes. Et au fond, ce principe de vie qui anime tous les êtres vivants, hein, eh bien finalement, il infuse l'être humain dès son départ. Et puisque ce principe de vie infuse un être humain, bah évidemment, cet être humain, il est tout de suite déjà et seulement pleinement humain. Et ensuite, finalement, cette existence humaine, elle suit un processus évolutif, un processus continu. Et en continuant finalement à obéir à ce principe de vie souverain et originel qui existe dès le début. Et ensuite, cet embryon, eh bien, il est le seul au monde à avoir la propriété de s'édifier lui-même. C'est son propre architecte à partir de cette première cellule qui est fondatrice et donc qui contient, je le disais, en elle-même, toute la puissance de l'être humain puisque tout cet être humain est inscrit au fond dans cette première cellule. Voilà, donc quelques petits éléments comme ça de partage autour de cette comment dirais-je prise de conscience de la puissance de cet être humain et voilà du fait que eh bien en tout cas aux yeux de Dieu c'est ce thème hein, qui avait été donné tu as du prix à mes yeux et je t'aime et voilà j'ai vraiment à cœur de participer parce que j'ai pu comprendre eh bien, à transformer le regard que nous avons apporté sur l'embryon humain qui aujourd'hui, vos auditeurs le savent évidemment, hein, mais est instrumentalisé dans la recherche, est parfois rejeté, même à un stade avancé par l'IVG par exemple, est aussi de plus en plus bricolé, manipulé. Ça, c'est ce que j'explique dans un essai que vous avez mentionné, Bébé sur mesure. Le monde des meilleurs est de plus en plus trié, de plus en plus regardé comme un objet au fond. Et si l'embryon est de plus en plus considéré comme un objet, ce n'est pas parce qu'il a changé, ce n'est pas parce que l'embryon en 2021 n'est plus le même que l'embryon en 1900 ou en l'an zéro, lorsque cet embryon était le Christ lui-même, qui s'est incarné, qui a choisi de se faire homme en se faisant même embryon. Bien sûr que non, rien n'a changé dans cet embryon. C'est toujours la même puissance de vie, c'est toujours le même principe de vie qui l'anime. Pour nous chrétiens, c'est cette âme, hein, c'est cette âme qui nous anime. Eh bien, non, il n'a pas changé, évidemment. Ce qui change uniquement, c'est le regard que nous portons sur lui. C'est l'adulte, c'est la loi du plus fort, c'est le politique, c'est celui qui l'instrumentalise, c'est celui qui veut gagner de l'argent sur ces cellules qui sont d'une puissance, je l'ai dit, incroyable et qui, du coup, eh bien, sont utiles. Ne nous voilons pas la face, parfois, dans certaines recherches, mais cette utilité nie totalement la dignité profonde de l'embryon humain qui est inscrite dès la première cellule au cœur même de cette nouvelle vie. Voilà, donc évidemment c'est pas sous le microscope hein, sous la lame du microscope qu'on verra cette âme, ce principe de vie hein, c'est quelque chose qu'il nous faut accueillir, qu'on ne pourra jamais scientifiquement totalement démontré, mais je ne suis pas sûre qu'il faille toujours voir pour croire, et je ne pense pas qu'on puisse un jour complètement définir qui est l'être humain, qui est l'homme, qu'est-ce que l'âme. Voilà, l'être humain est porteur de beaucoup, beaucoup, beaucoup de mystères, et c'est tant mieux, quelque part, puisque si nous sommes à l'image de Dieu, il n'est pas normal qu'il y ait encore beaucoup de mystères. Mais je crois que vouloir enfermer l'être humain dans des idées ou dans des mots, ce sera toujours trop petit pour nous. Et je crois vraiment que, voilà, il est de notre devoir et de notre espérance que de se dire, eh bien, que nous pouvons collectivement changer de regard sur l'embryon, sur le fœtus, sur la vie naissante, pour prendre en considération que que la dignité humaine, eh bien, elle inclut la dignité de la procréation, la dignité de l'embryon, et qu'il y a quelque chose de l'ordre de la fraternité que de se considérer avec ceux qui sont nos semblables dans le futur comme étant frères, comme étant reliés par cette fraternité à laquelle nous appelle aussi le pape, hein, dans cette belle encyclique Fratelli Tutti. Eh bien, je crois vraiment que voilà, il y a cette prise en considération que, eh bien, que nous sommes tous frères, sans oublier le plus petit d'entre nous, celui que nous avons tous été.
Blanche Strep, peut-être une question sur les conseils qu'on peut donner à l'entourage d'un couple qui a connu cette épreuve du deuil périnatal, ou d'un couple stérile. Parce qu'on peut avoir souvent la crainte d'être maladroit, et souvent on l'est. Moi, la première, hein, j'ai tendance à mettre les pieds dans le plat. Comment accompagner, comment aider ces couples en difficulté suite à un deuil, la perte d'un enfant ou des difficultés à concevoir?
Bien, il y a pas mal de conseils, mais je pense que d'abord, chaque histoire, chaque entourage, chaque relation est toujours assez particulière, et c'est sans doute à chacun à trouver les moyens. Mais c'est vrai qu'il y a des clés qui peuvent être utiles. D'abord, je pense que quand on est face à une personne qui traverse une difficulté, une souffrance, bien, la présence est quelque chose évidemment d'important, avec l'écoute bienveillante. Parfois, on a juste besoin d'une épaule pour pleurer, on n'a pas besoin de conseils, on n'a pas besoin de nous dire de passer à autre chose, ou voilà, on n'a pas besoin forcément d'être bousculé. Donc peut-être, voilà, savoir écouter, savoir accueillir, savoir tout entendre, parfois même des choses pas faciles, parce que chacun porte, je le disais dans mon témoignage, je crois, des forces de vie, et que il faut pouvoir avoir les crins pour les laisser émerger. Et parfois, les réponses qu'on reçoit trop vite de l'entourage, ou les injonctions à dire que tout va bien, qu'on a tourné la page et tout ça, c'est pas forcément approprié, c'est pas forcément ajusté. Faut laisser le temps au temps, voilà, aux larmes à s'écouler, et puis aux forces de vie à se réveiller aussi. Donc voilà, peut-être ce conseil. Et puis je crois qu'effectivement, les maladresses, elles arrivent toujours, tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est difficile d'accompagner quelqu'un, parce que chacun vit son épreuve finalement tout seul. On peut être là présent, mais un deuil, par exemple, personne ne le vivra à notre place. Une épreuve, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du personnel. Donc on peut se dire que c'est difficile d'être complètement dans la tête de l'autre, et d'accepter que on ne comprenne pas forcément au fond ce que peut vivre l'autre, mais voilà, qu'on est là présent, et que il y a quand même, voilà, cette espérance qui peut être annoncée, partagée, qu'un jour tout pourrait aller mieux, et que il y a aussi une forme de patience peut-être à accueillir dans l'épreuve. Et pour effectivement les couples les entourages de personnes qui traversent l'infertilité, c'est effectivement assez difficile. On, on ne sait pas toujours quoi dire. Je pense qu'il faut faire attention là aussi à ne pas plaquer des phrases toutes faites, de ne pas rentrer trop vite dans l'intimité du couple, de ne pas forcément s'autoriser à dire alors c'est pour quand, alors c'est pourquoi, alors voilà, de laisser finalement les couples un petit peu maître de leur barque qui est chahutée pour partager quand ils ont envie de partager ou rester en silence et méditer dans leur cœur quand c'est leur désir. Et voilà, peut-être je crois que faut faire aussi attention à ne pas trop facilement dire vous trouverez une autre fécondité dans votre couple ou de trop facilement envoyer vers des solutions X ou Y. Parce que je pense que c'est pas le couple doit faire son chemin aussi. C'est bien de l'accompagner, de le soutenir, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire à la place des autres. Il y a des décisions qu'on ne peut pas prendre à la place des autres et qu'il faut faire attention aux paroles qu'on pose parce que quand c'est dans des sujets aussi sensibles, ça peut être des paroles qui orientent énormément ou qui blessent énormément. Donc là aussi, être dans l'écoute et dans le peut-être aussi dans cette espérance toujours, voilà, que rien n'est impossible à Dieu d'abord, et que effectivement, sans parler d'autres fécondités, je pense que cette espérance qu'on peut quand même partager, c'est que quand on est empêché, pour différentes raisons, hein, de donner la vie, on n'est jamais empêché dans sa vie de se donner. Et ça peut être une source de consolation que de finalement sentir qu'on apporte au monde quelque chose malgré, eh bien, cette immense renoncement parfois que certaines personnes sont amenées à faire de ne pas pouvoir donner la vie de la manière qu'ils l'espéreraient.
Et puis vous avez insisté sur le fait que chacun a son parcours et sa manière d'appréhender les événements de la vie. Il peut y avoir aussi cette tentation, si on a connu une épreuve similaire, de calquer sa propre histoire sur celle du couple qui traverse une difficulté semblable, sachant que chacun est différent et chaque histoire est différente.
Oui, c'est vrai, il y a ce risque de calquer sa propre histoire, il y a aussi le risque de calquer ses propres désirs ou ses propres ressorts personnels et de trouver trop vite, de donner trop vite telle ou telle solution, finalement qui ne répond pas aux désirs profonds et au chemin de la personne. Donc, c'est vrai que voilà, je crois que l'écoute bienveillante, sans donner forcément toujours, mais parfois il y a des suggestions ou des choses à partager. Il faut aussi écouter les intuitions qu'on a dans son cœur quand on est avec quelqu'un. Parfois on a des bonnes intuitions, des bonnes paroles opposées. Il y a évidemment, parfois les personnes ont besoin d'être secouées aussi, donc il n'y a pas une règle générale qui s'appliquerait pour chacun, ni tout le temps, puisque en plus, on n'est pas, enfin, on peut se lever le matin de telle humeur et l'après-midi c'est différent, surtout nous les femmes. Donc je crois qu'il n'y a pas un schéma à se bloquer. Il faut aussi écouter, voilà, comme je disais, sentir les appels de la vie, sentir les intuitions qui nous voilà, laisser aussi passer l'Esprit Saint parfois dans nos paroles, hein, c'est possible, il faut l'accueillir, le demander, et voilà. Mais c'est vrai que l'écoute, c'est un beau cadeau à faire.
Alors pour terminer, est-ce que vous avez un message? Alors on vient de dire que chaque histoire est différente, mais néanmoins, avez-vous un message peut-être particulier pour les couples qui rencontrent des difficultés?
Bien, peut-être, voilà, vous avez mentionné que on a travaillé sur un livre collectif sur les vertus, et moi, on m'a fait travailler sur la vertu de force. Et je crois qu'il y a quelque chose d'assez beau à redécouvrir les vertus, toutes, hein, parce qu'il ne s'agit pas d'en développer une sans penser aux autres. Par exemple, la force toute seule, s'il n'y a pas, par exemple, la justice avec elle, bon, c'est pas forcément du coup une vertu. Mais en tout cas, je crois que cette vertu, ce don de force aussi, la force est à la fois une vertu et à la fois un don, donc ça c'est quand même assez chouette. Elle est belle à repenser et à redécouvrir, parce qu'au fond, comme le dit saint Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand je suis faible, affaibli par une épreuve, une difficulté, que je me mets dans la plus facilement peut-être dans la disposition de cœur de me dire bon bah je suis appelée à vivre ça. Comment je vais le vivre aussi avec peut-être des forces de vie, avec le Seigneur aussi. Et comment alors c'est lui qui me renforce parce que eh bien, c'est au cœur de nos faiblesses qu'il peut le mieux nous rejoindre pour nous renforcer. Et voilà, je crois que c'est peut-être le mot de la fin que j'avais à cœur de vous partager.
Merci beaucoup, Blanche Streb, et puis peut-être à bientôt.
Oui, avec plaisir.
Merci beaucoup. Au revoir.